prototype de tous les salopards. Je fus un ambitieux qui manqua d'ambition. Je fus un vrai vicieux comblé de fellation. Je fus un acrobate qui chuta du trapèze. Je fus un psychopathe, je fus celui qu'on plaise. Je fus tué dans mon bain par électrocution. Je fus un jacobin sous la révolution. Je fus bourgeois sublime, gorgé de petitesse. Je fus cet anonyme qu'on pleure par politesse. Je fus sanguinaire Joe qui fit 30 ans de bagne. Ouvrier chez Peugeot, héros sous Charlemagne. Je...
Donc. On va parler des Wobblies.
Bonjour et bienvenue sur Radio Libertaire pour cette émission Livre en Lutte, qui n'est pas une nouvelle émission. Je vous diffuse un podcast de 2022 sur les Wobblies. Et surtout de la répression sociale aux États-Unis, qui est assez extrêmement violente. Un petit peu aussi sur la répression sociale en France, sinon ce serait un peu ridicule. Et pour traiter ces sujets, donc on a trois bouquins principaux. Le premier, Wobblies, un siècle d'agitation sociale et culturelle aux États-Unis, chez Nada. Un magnifique roman graphique avec des textes, ça fait 300 pages. La pochette est superbe. Il y a notamment une BD de Seth Tobakman qui doit travailler en gravure ou en linotype. Je sais pas, mais c'est vraiment encore un cran au-dessus des autres. Deuxième livre, Wobblies et Hobo, chez l'Insomniac. 250 pages, beaucoup de gravures, de photos, et un CD qu'on va utiliser. Il contient pas moins de 21 titres. Après, pour ce qui est de traiter la répression sociale en France, je vais m'appuyer sur le bouquin de Anne Stenner, qui s'appelle le titre complet... Le goût de l'émeute, manifestation et violence de rue dans Paris et sa banlieue à la Belle Époque. Ça, c'est chez L'Échappée, c'est de 2012. On fera un petit lien avec le polar. Ce sera un polar de Dashiell Hammett, Moisson Rouge. Ça permettra d'ouvrir encore le sujet. Et pour commencer, on va introduire avec une chanson de Florence Riss. Écrite en 1912, enregistrée en 31, je vais vous raconter ça après. Ça sera l'occasion d'introduire donc la répression sociale.
The fame out on
c'était le groupe Gomard. Alors l'histoire de cette chanson, c'est écrit par Florence Rice. Florence Rice, elle naît en 1900 et elle écrit cette chanson à 12 ans, donc en 1912, quand elle accompagne son papa sur une grève de mineurs dans le comté d'Arlan. Et c'est enregistré pour la première fois en 1931, alors que cette fois-ci, elle accompagne son mari, toujours sur une grève de mineurs, toujours sur le comté d'Arlan. Et cette grève prend le nom en anglais de Arlan County War, parce que c'est vrai que c'était assez sanglant, on l'a aussi appelé Bloody Arlan. Ça se passe de 31 à 32, voire jusqu'à 39. Donc en 31, donc gros conflit, les manches de pioche ont volé bas, et pas seulement dans ce pays qui est dans les armes, ils se sont aussi un peu beaucoup tirés dessus à l'arme à feu. Alors par exemple, le 5 mai 31, c'est la bataille d'Evarts, et je dis bataille parce qu'en anglais ils disent bien Battle of Evarts. C'est une embuscade tenue par des mineurs contre des véhicules qui acheminaient des matériels pour les briseurs de grève. Là on a trois gardes de la compagnie qui seront tués, ainsi qu'un gréviste, tous par arme à feu. En 32, ça continue, et là, c'est Harry Sims, un leader syndical qui est tué à 21 ans par un shérif, employé comme garde par la compagnie, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. C'était pas un wobbly, c'était un gars de la National Miners Union, un syndicat ouvertement communiste, et Harry Sims faisait partie de la Ligue des jeunes communistes. Il y aura 20 000 personnes à son enterrement, et une chanson sera créée, enregistré pour la première fois par Alan Lomax. Alan Lomax, j'en parle souvent dans les émissions, et qui sera notamment reprise par Pete Seeger, donc je vais vous la passer tout à l'heure. Mais ça s'arrête pas là. Donc, en 1971, toujours dans le comté d'Arlan, dans ce pays qui voue aussi un culte au progrès, en fait, les conditions de vie des travailleurs n'ont pas beaucoup évolué. Donc cette année-là, ils habitent encore les logements qui appartiennent à la compagnie, et ces logements n'offrent pas encore toutes les commodités, c'est-à-dire que beaucoup n'avaient pas encore l'eau courante, carrément. Et cette année-là, les profits de la compagnie locale, qui s'appelait la Duke Power Company, avaient augmenté de 170%. L'inflation était à 7%, et la compagnie avait royalement proposé d'augmenter les salaires de 4%. Donc ça s'est mal passé, il y a eu du branle dans le manche, les manches de pioche ont volé bas, et pas que. Parce que dans ce pays qui aime toujours autant les armes, devinez quoi, on a encore un mineur gréviste abattu par arme à feu. Il s'appelait Lawrence Jones et il a laissé derrière lui une veuve de 16 ans, déjà maman d'un petit gamin. Alors une maman de 16 ans, veuve d'un mineur abattu dans un logement peut-être sans accès à l'eau courante, on a plutôt l'impression qu'on est dans les mines d'Anzin en 1885, dans Germinal donc. Pas du tout. C'est le comté d'Arlan aux États-Unis, quasiment 100 ans après. Petite introduction, alors maintenant je vous parle un petit peu des méthodes, des luttes vraiment acharnées qui ont été menées autant par les autorités locales que par le gouvernement, contre la formation des nouveaux syndicats, ou pour casser ceux qui existaient déjà. Donc contre leurs dirigeants, contre leurs leaders, contre leur famille, leurs sympathisants. Donc ils utilisaient les agences dites de détectives privés, notamment la Pinkerton, c'était la plus célèbre. Il y a eu en tout quand même à peu près jusqu'à 200 de ces officines. Ils utilisaient aussi des compagnies de garde ou de vigile, des groupes de citoyens comme la Citizens Alliance. Alors ça, c'était issu d'une société secrète originaire de l'Ohio, qui a beaucoup œuvré au Colorado et en Californie. Alors eux collectaient de l'argent pour lutter contre les grèves, et ils pouvaient aussi se déplacer auprès des employeurs pour leur mettre la pression, pour qu'ils mettent un terme aux accords syndicaux en cours. Autres outils, ils ont pu employer également les anciens combattants de l'American Legion, ça, on va en parler plus loin, ainsi que la mafia. Ça, c'est dans la partie roman noir. Alors pour continuer d'illustrer, je vais évoquer quelques massacres, puisque c'est le mot utilisé en anglais, massacre, qui ont commencé bien avant 1905 et la création du syndicat IWW. Donc en 1897, c'est le massacre de Latimer en Pennsylvanie. Là, le shérif et 150 adjoints tuent 21 grévistes sans armes et quasiment tous touchés dans le dos. Pas mal. En 1914, c'est le massacre de Ludlow, dans le Colorado. 1200 soldats de la garde nationale, des hommes d'une agence, alors cette fois-ci c'était la Baldwin Fels Detective, constituée notamment de 117 gardes engagés par John Rockefeller. Donc suite à la grève, les mineurs qui sont logés par leur compagnie
ont dû quitter ces logements. Ils avaient installé un village de tentes pour abriter eux-mêmes et leur famille. Et là, il sera attaqué par deux compagnies de la garde nationale avec des mitrailleuses, dont une montée sur une voiture. Il y a la photo sur le net, c'est pas mal. Donc ils ont tiré, ça a duré toute la journée. Et c'est pas tout, à la tombée de la nuit, les gardes ont fait le tour du village de tentes, ils les ont aspergés de kérosène et ils y ont mis le feu. Donc bilan 13 morts, 13 mineurs tués, surtout par balle, et en plus, on a retrouvé les cadavres calcinés de 11 enfants et de 2 femmes. Eh bien, devinez quoi, à l'issue du procès, il n'y a que des responsables syndicaux qui ont été condamnés, et ça se passait toujours comme ça, à chaque fois, seuls les mineurs étaient condamnés. Je continue ma liste, avec en 1921 la bataille de Blair Mountain. Encore une fois, en anglais, on parle de battle. Ça, c'est un épisode qui est souvent évoqué par Roger Martin quand il fait ses conférences sur le roman noir américain, notamment à Vitry-sur-Seine dans le cadre du Festival du roman noir et social de Vitry-sur-Seine, qui a été créé par Yvan Nutt, la librairie associative. Donc ça, donc en 21, on est en Virginie-Occidentale, et c'est décrit comme le plus grand soulèvement de travailleurs dans l'histoire des États-Unis. Encore une fois, les mots utilisés en anglais, ils parlent de labor uprising, de soulèvement. Donc on a 10 000 mineurs de charbon, ils sont armés, ils s'opposent à 3 000 hommes de loi, plus tous ceux qu'on a engagés pour briser les grèves. Il s'agissait de créer un syndicat des bassins houillés. Et cette fois-là, c'est ça que raconte Roger Martin, c'est la fois où on a loué des avions privés, afin de larguer sur les mineurs des bombes artisanales, et même des bombes venant de stocks restants de la Première Guerre mondiale. Et on le sait parce qu'il y en a une qui n'avait pas explosé, les mineurs l'avaient récupéré, ils l'ont produit comme preuve lors du procès. Donc la bataille a pris fin après le tir d'environ 1 million de cartouches. Donc bilan, 30 morts du côté des milices. Du côté des mineurs, je pense qu'on ne saura jamais, c'est entre 50 et 100, plus des centaines de blessés. Et alors, encore une fois, du point de vue du volet judiciaire, eh bien, seuls des mineurs ont été inculpés, mais juste 985 d'entre eux. Je continue encore cette petite liste avec, en 1927, le massacre de la mine de Columbine, en fait, c'est à Seren, dans le Colorado. Et là, c'est une voiture blindée avec mitrailleuse, on a la photo, qui a ouvert le feu sur des mineurs sans armes. Bilan, 6 mineurs tués, et des dizaines de blessés. Et à l'époque, c'est la presse qui a prétendu que les grévistes avaient une mitrailleuse. Alors après, on verra plus loin les assassinats sur les leaders syndicaux. Et il faut quand même que je, toujours avant de parler du syndicat lui-même, que j'explique un peu comment fonctionnent les syndicats aux États-Unis. Donc ils sont interdits hein, jusqu'en 1914. Donc en 14, ils sont autorisés, mais ça reste très théorique. En fait, c'est pas du tout admis dans les faits par les autorités locales, et même jusqu'en haut de l'État. Quelques dates après, en 47, on a la loi Taft-Hartley. Ça, c'est magnifique. Ça, tout est fait pour ralentir la création des structures syndicales. Les débrayages spontanés sont illégaux. Il y a un préavis de grève de 60 jours quand il s'agit de créer une nouvelle convention collective. Et à cette date, le droit de grève des fonctionnaires fédéraux, des fonctionnaires d'État et des collectivités locales est simplement retiré. Ça introduit un salaire minimum, mais on verra qu'il ne sera pas énorme. Je crois qu'en 55, c'est $1. Avant Obama, c'était 6,60 €. Pas énorme. Et la répression, elle continue en 80 avec Ronald Reagan. Une grande vague de répression très dure qui a été lancée. C'était surtout les contrôleurs aériens qui avaient mené une grève. Ils ont échoué et ça a été une défaite très symbolique. Et à l'époque, au niveau des moyens, cette fois-ci, on a vu la création de très nombreuses officines juridiques, de conseils aux entreprises contre l'implantation des syndicats. En 2002, George Bush, parce que cette histoire ne s'arrête jamais, a retiré le droit de grève à 170 000 salariés. Et encore des protections accordées aux fonctionnaires. C'est-à-dire que les complications administratives sont différentes de la France. Et c'est-à-dire que il y a deux étapes. D'abord, il faut que au niveau de l'entreprise dans laquelle on veut implanter un syndicat, on obtienne la signature de 30% des salariés du site. Après, il y a une deuxième étape, un référendum où on doit obtenir 50% d'approbation. Et à chaque fois, les patrons et les associations patronales mettent un pognon fou pour lancer des campagnes, juste avant les votes. Donc il y a des campagnes de communication, il y a des menaces, des chantages, des intimidations. C'est bourré de mensonges, hein, évidemment. Pour eux, ils préviennent les syndicats, les salariés que le syndicalisme, c'est synonyme de fermeture d'entreprise, de licenciement, etc. Et on a toujours cette participation des responsables politiques. En 2014, c'était un sénateur du Tennessee, un républicain, qui avait menacé Volkswagen de lui retirer ses subventions si l'entreprise laissait s'installer une section syndicale dans son usine. Pour illustrer, on pourrait aussi parler du cas de l'entreprise Walmart, puisqu'il n'y a aucune implantation syndicale de Walmart, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Au Canada, il y en a eu une, mais ça a cessé en 2005. Alors, les luttes, plus spécifiquement contre les IWW, qui avaient quand même quelques résultats. Donc, ils sont attaqués notamment aux dirigeants. En 1914, c'est Joe Hill qui est accusé de meurtre et qui est exécuté. Bon, pour la petite histoire, le jour où un type est tué, Joe Hill est retrouvé avec une balle dans le corps, mais on pense que en fait, il avait réglé une petite affaire de... En fait, il avait dû avoir des ennuis avec le mari d'une de ses copines. En fait, c'est plutôt ça. En 1915, c'est Frank Little qui était très antimilitariste, qui a été lynché à Butte, dans le Montana, juste 4 mois après la déclaration de la guerre. Joe Hill, dans le détail, donc lui, c'est un boblier. Et pas que, il a aussi créé quelques chansons. Donc c'est une grande figure des luttes sociales. Et donc après sa mort, on a créé une chanson, donc je vous passerai, qui a été reprise par tout le monde. Paul Robson, Pete Seeger, John Baez à Woodstock en 69, Bruce Springsteen dans les années 2000. Et il aurait inspiré aussi beaucoup Woody Guthrie. Alors pour vous donner un peu une idée du caractère du bonhomme, donc juste avant de mourir, il écrit à Bill Haywood, Big Bill Haywood, un des responsables les plus connus de IWW, « Ne perdez pas de temps dans le deuil, organisez-vous. » Et son tout dernier mot, c'est devant le peloton d'exécution, puisque c'est lui qui ordonne le feu, et qui dit « Fire ». Alors, je vais vous passer la chanson tout de suite. Alors, dans la version Pete Seeger, si j'arrive, parce que c'est un vinyle. On essaye.
Come and listen to my story. Come and listen to my song. I will tell you of a hero who's now dead and gone. I will tell you of a young boy whose age was 19. He was the bravest Union man that I have ever seen. Harry Sims was a pal of mine. We labored side by side, expecting to be shot on sight or taken for a ride by them dirty coal-operated gun thugs that roam from town to town, a-shooting down the Union men where'er they may be found. Harry Sims was walking down the track one bright sunshiny day. He was a youth of courage, his step was light and gay. He did not know the gun thugs was hiding on the way to kill our brave young comrade this bright sunshiny day. Harry Sims was killed on Brush Creek in 1932. He organized the miners into the NMU. he gave his life in a struggle, that was all that he could do. He died for the Union, also for me and you.
Voilà, donc je continue ma petite liste des violences syndicales contre le syndicat AWW. Donc là, on est en 1916. On a un groupe d'hommes d'affaires qui sont nommés shérifs adjoints par le shérif du coin et qui attaquent des membres d'un syndicat, c'est-à-dire qu'ils sont sur un quai. Il y a un paquebot, le paquebot Vérona, qui arrive et ils tirent à balles réelles sur le paquebot. Ça dure un certain temps. Il y a 5 morts qu'on retrouve, 6 autres qui disparaissent certainement dans le fleuve. Et il y a deux personnes de la bande d'hommes d'affaires qui sont tuées, mais on pense que c'est plutôt des tirs collatéraux, enfin des tirs amis. En fait, c'est eux-mêmes qui se sont tirés dessus. En 1919, j'avais parlé de l'American Legion. Ah, ça se passe le 11 novembre, parce que pour le premier anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, les anciens combattants attaquent le siège des IWW. Donc il y a 6 personnes qui sont tuées dans la fusillade, parmi lesquelles quand même l'un des chefs des assaillants. Donc ça c'était pas mal. Là où c'est encore plus classe, c'est que la police donc arrête des membres du syndicat, et il y a dont Wesley Everest, qui est un des leaders, qui est lui-même ancien combattant. Et le soir même de son arrestation, en fait, il est remis en catimini à la Légion par les gardiens de la prison. Tout va bien. Donc d'abord, il a eu les dents cassées à coups de crosse de fusil. Après, on l'a castré. Après, on l'a lynché 3 fois en 3 endroits différents. Et enfin, on a criblé son corps de balle avant de l'enterrer dans une tombe anonyme. Et là où on rigole, c'est que le rapport officiel du médecin légiste a attribué le décès à un suicide. Oh yeah! Et devinez comment s'est terminé le volet judiciaire. Eh bien, aucun des assassins n'a été inquiété par la justice, évidemment. Par contre, on a 11 syndicalistes qui passent en jugement pour les morts provoquées par l'assaut dans le siège de leur organisation. C'est magnifique. Alors, on vient enfin au syndicat AWW. Donc, c'est un grand syndicat. C'est l'idée, ça se crée en 1905, de créer enfin un grand syndicat qui regrouperait tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire, c'est le contraire des syndicats qui existaient avant, qui étaient corporatistes, très locaux, un peu très corrompus et un peu très inefficaces. Donc, clairement, le but du IWW, c'est renverser le système capitaliste et créer une communauté coopérative mondiale de travailleurs. Clairement, un nouvel ordre social. Dès le départ, ils veulent organiser les travailleurs non qualifiés, donc notamment les hobos, mais aussi souvent les immigrés de fraîche date, c'est-à-dire immigrés de fraîche date, c'est-à-dire des travailleurs qui n'ont pas la nationalité américaine. Donc ils sont anticapitalistes, antinationalistes et antimilitaristes. Je viens de le dire, ils l'ont payé assez cher. Parmi leur credo, leur déclaration, en 1914, sur le côté antimilitariste, il déclare « Nous, membres de l'armée industrielle, refusons de nous battre pour tout autre motif que la réalisation de la liberté industrielle. » En 1916, ils en rajoutent une couche et ils disent « Nous rejetons de toutes nos forces de prendre part à une guerre qui ne servira qu'à river plus durement encore les chaînes de l'esclavage autour de notre cou et à renforcer le pouvoir d'une minorité qui contrôle le destin du plus grand nombre. » Donc parmi les petites phrases, il y avait aussi le slogan « Ne sois pas soldat, sois un homme » ou « Bats-toi, mais sur le tas, pour toi et pour ta classe ». Donc dès le début, au niveau des méthodes, il y a quand même deux tendances. Il y a ceux qui voulaient passer par l'action directe, c'est-à-dire toutes sortes de grèves, grèves intermittentes, grèves sur le tas, les campagnes de boycott, les manifs de rue et le sabotage. Le sabotage, c'est intéressant parce que c'est un mot qui est utilisé de plus en plus en France à la fin du 19e et il est repris tel quel en anglais. Alors, soi-disant, c'est parce que on balançait des fois des sabots dans les machines pour les mettre en panne. Et le mot sabotage apparaît pour la première fois chez les Woblies en 1910 dans un compte-rendu sur une grève à Chicago. Donc, par définition, ils sont opposés à l'action électoraliste. Donc je les cite, parce qu'ils voulaient agir sans l'aide de dirigeants syndicaux trompeurs et de politiciens intrigants. En même temps, l'électoralisme, c'est vrai que ça n'avait pas beaucoup de sens pour toutes les personnes qui étaient privées du droit de vote, donc les femmes, les nouveaux immigrés et les noirs américains dans le sud. Il y avait aussi une autre tendance qui, eux, voulaient davantage participer au jeu démocratique, qui finira, enfin, qui sera un petit peu importante. On va voir en 1924, ça tourne un petit peu. De quoi vous parlais-je ? Oui, il va falloir que je vous parle des hobos. Il faudrait quand même que je vous dise que les Wobblies, en fait, ont remporté quelques victoires. Ça, vous lirez les excellents bouquins que j'ai cités. Parce qu'il faut que j'avance un petit peu, je vais parler des hobos. Pour parler des hobos, je vais vous mettre une petite chanson. Alors, je vous demande une seconde.
Walked up to a lady's house, called her grandma. Didn't know her name. She gave me something to eat. Walked on down the road. I heard old train getting off like this. I heard old bell ring kind of like this. Down, I heard old whistle blow. I heard it said, look a yonder, look a yonder, at the women, at the women. I went on then, I began to sing to the engineer. Mr. Engineer, let a man ride the blind. Mr. Engineer, let a poor man ride the line. But I wouldn't mind it, fella, but you know this train ain't mine. I begin to hear that old fella blow a long show. Get away, blow. And I begin to sing to him one more time. You're the crew fireman, low down engineer. You're the cruel fireman, low down engineer. I'm trying to hobo my way and you leave me standing here. Then I go on further and begin to sing poor boy to him. And he began to smile in my face. Get a fella right all around the world. Get a fella right all around the world. Oh boy, you ain't got no girl. And I began to hear him tell me about those cheese and eggs. I want them fixed. I heard him say, scramble down. Scramble down. Scramble down. And I began to hear him tell me about them cheese and eggs. I heard him say, cheese, eggs, dinner, dinner. And I began to tell me about Emrah. I love you, Emrah. I love you true. Love you, Emrah. Tell me what I do.
Voilà, donc c'était Blind Willie McTell. Alors comme je suis un peu snob, je vous ai passé un vieux vinyle de 1968. Et je vous rassure, le même morceau est disponible dans le petit CD qui est fourni avec Wobblies et Hobo chez l'Insomniac. Donc il n'y a pas moins de 21 morceaux. Donc le lien avec les hobos, important. Les hobos donc, qui ont été jusqu'à 500 000. La précédente émission Livre en lutte portait sur les hobos. Donc les hobos, cette armée de réserve industrielle, selon la formule de Marx, et qui est reprise par Nels Anderson, hobo et fils de hobo, qui est devenu sociologue. Il a fait le bouquin le plus important d'un point de vue sociologique sur les hobos, Le Hobo, sociologie du sans-abri en 1923, qui est édité hein, actuellement. On voit le lien avec les hobos dès la convention de 1908. D'abord, ça se passe à Chicago. Chicago, c'est le lieu de la hobohème. Dans les villes américaines, il y avait des quartiers hobos, et le plus grand, c'était celui de Chicago. Il faudrait revenir à la précédente émission, parce qu'il y avait 29 lignes de chemin de fer, il y avait 4000 km de chemin de fer à Chicago. Donc, parce que c'est à Chicago, parce que pour ceux qui ont participé à la convention, ont utilisé donc les boxcars, les wagons de marchandises, et ils ont aussi campé dans des jungles sur le trajet. Alors le look à l'époque, en 1908, c'est souvent salopette, chemise noire et foulard rouge. Alors pour la chemise noire, voir aussi mon précédent émission, la liquette aux 100 000 bornes, comme l'appelaient les hobos, parce que se salissait moins, c'est aussi le côté pratique. Les hobos, bah, sur tous les camps des hobos, sur toutes les jungles, il y avait le petit livre rouge des chansons des IWW. Il y a eu jusqu'à 175 chansons, 9 éditions de 1909 à 1956. Donc au départ, ils détournaient les chansons de l'Armée du Salut, ou des chansons à la mode, ou des gospels. Ils ont même eu un orchestre en uniforme rouge, comme pour copier ou parodier l'Armée du Salut. Ça, c'était systématiquement chanté hein, sur les camps des hobos. Un autre point commun, hein, il faut se rappeler, donc, il y a 500 000 hobos, c'est la violence qu'ils ont pu subir. On estime qu'entre 1901 et 1905, il y a eu à peu près 24 000 voyageurs clandestins qui ont trouvé la mort sur les rails. Alors, ils étaient aussi bien raquettés par les chefs de train que pourchassés par la police des chemins de fer et les polices locales. Ils avaient parfois une carte des Wobblies pour pouvoir prendre le train en même temps que les Wobblies. Ils avaient droit à des arrestations sommaires, les hobos. Les conditions de détention étaient super dures. Hein. C'était réellement au pain et à l'eau, et puis il y avait beaucoup de mauvais traitements. Les jugements, alors là, c'est une parodie. Et donc, il y avait chez les hobos plus aucun respect ou aucune confiance dans la loi et les institutions. En cela, ça les rapprochait des hobbies, en même temps que l'envie d'inventer une façon de vivre alternative et puis leur goût pour l'indépendance. D'ailleurs, souvent, les gens, à l'époque, confondaient les hobbies et les hobos. L'autre lien, on va dire que c'est un peu l'industrie à l'époque aux Américains, les conditions de travail qui fait que tu avais des parents complètement exténués ou absents, qui ne pouvaient pas vraiment s'occuper des gamins, qui eux-mêmes arrêtaient vite l'école et puis qui n'avaient peut-être pas envie de suivre leur exemple. Il faudrait que je vous raconte un petit peu les conditions de travail à l'époque. Avec les agents recruteurs, les sharks, les requins, qui faisaient payer les hobos qui étaient embauchés. Donc il fallait payer, mais il fallait aussi payer pour son matelas, pour la nourriture, pour son tabac, pour les outils, etc. Et donc l'histoire, c'était en fait les agents recruteurs étaient souvent de mèche avec les contremaîtres. Comme ça, ils licenciaient les gars au bout de 2 mois et ils pouvaient à nouveau revendre le même matelas, le même outil, et reprendre des commissions sur les embauches. Donc il y avait les agents recruteurs, il y avait les boarding companies. Alors ça, c'est comme des pensions, mais elles faisaient payer le loyer et la nourriture en même temps qu'elles recrutaient. Donc dans ces emplois à durée déterminée, il y avait aussi des frais médicaux. Donc ça, je vais vous lire une petite histoire, c'est l'histoire du chèque de Saint-Saëns. Et pour continuer sur les hobos, en fait, bien souvent les hobos étaient bien contents de faire une pause, d'aller dans les locaux syndicaux des Wobblies. Ça leur servait un peu de lieu de rencontre, de salon, de bar. On pouvait y bouquiner parce que bon, les hobos ont eu une très grande importance dans la littérature américaine et étaient eux-mêmes, je l'ai expliqué, plus cultivés que la moyenne. Alors, est-ce que je vous lis l'histoire du chèque de Saint-Saëns ? C'est quand même assez rigolo. Donc, je vais vous lire un extrait, donc,
du bouquin Oblige et Hobo. Rapidement, donc on a souvent des salaires inférieurs à 1 dollar, parfois même d'un montant de 5 cents. Là, je parle d'un exemple de bûcheron dans le Montana. Donc un tel bulletin de paie peut comptabiliser tout l'argent d'un ouvrier qu'il reçoit après avoir travaillé pendant 4 ou 5 jours, ou davantage. Les gars étaient payés à la semaine ou à la quinzaine. Dans certains cas, les frais d'embauche sont retranchés du salaire. Parce que des fois, les gars n'ont pas, quand ils sont embauchés, ils ne disposent pas de la somme à verser à l'avance au shark, au requin. En plus, il faut déduire le dollar pour le médecin à l'hôpital. Or, il n'y avait jamais d'hôpital à proximité des camps. Et le médecin qui est embauché est bien souvent un incapable. Il faut aussi s'acquitter de la taxe par tête qui s'élève généralement à 4 dollars, si elle n'a pas déjà été payée dans un autre camp ou si l'ouvrier a perdu son reçu. Donc, il y a en général donc, des matelas à vendre. Et comme ils sont déjà montés sur les chalis, on est obligé de les acheter. Et l'occupant, donc je l'ai dit, va racheter à son tour le matelas. Donc on leur déduit le prix des bottes, des chaussettes, du tabac, qui sont vendus aux bûcherons de la compagnie au double du prix qu'ils coûtent en ville. Et les bûcherons n'ont pas envie de se passer ni de vêtements, ni de tabac. Et là, on comprend mieux pourquoi ces hommes pouvaient être rémunérés à 5, 15 ou 30 cents sur leur feuille de paie. Et c'est une fois comptabilisées toutes ces petites arnaques que le chèque de la banque présente donc ce solde un peu ridicule. Il faudrait que je vous parle de pas mal de choses. Parce que les hobos, donc pour le lien avec les hobbies, étaient adoraient faire les oratoires de rue. Hein, ils montaient sur une caisse à savon, un soapbox. Ah non, une caisse à soupe plutôt. Et ils haranguaient la foule pour plaisir hein, du débat. Et dans certaines villes, ça a été interdit. Et là, il y a eu des wobblies qui n'ont pas trop apprécié. Et donc, dans le Montana, à Missoula, il y a des centaines de wobblies qui sont venus en train d'une grande partie des États-Unis, qui se sont répartis sur les soapbox aux quatre coins de la ville. Et finalement, ils ont obtenu une victoire, donc l'abrogation d'un arrêté qui interdisait les orateurs de rue. Et à l'époque, donc, c'est un petit peu intéressant de voir que la population pouvait parfois être du côté des détenus, parce que ça commence toujours par des arrestations. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Les Wobblies, leur opposition à la guerre. Il faudrait en parler, donc je vais le faire. Alors en fait, je l'avais déjà dit, peut-être que je me répète un petit peu. Il y a eu des procès contre les Wobblies parce qu'ils étaient anti-guerre. Donc on a voté de nouvelles lois en 1917 qui condamnaient le syndicalisme criminel. Et ces lois ont servi jusqu'à la fin des années 20 pour envoyer encore des centaines de hobbies en prison. Et là, on va commencer à parler de la fin du syndicat. Il y a plusieurs causes, en plus de l'immense vague de répression. D'abord, en 1924, il y en a certains qui se sont plaints un peu du centralisme et qui ont créé une scission. Et donc, ils ont créé un nouveau journal et le syndicat s'en remettra jamais parce qu'il perd et son imprimerie et son siège. Après, en 1932, il n'y a plus que 29 dollars en caisse à cause des frais de justice. Il y a des dissensions avec... Il y a d'autres syndicats qui apparaissent malgré tout. Je vais citer quand même un historien parce que sa formule, c'est qu'une formule, mais ça a l'air bien tourné. Il écrit « On pourrait dire que les IWW ont été bolcheviques et antisyndicalistes dans leur conception d'un syndicat unitaire, mais anti-bolcheviques et syndicalistes dans leur rejet de l'action politique. » Donc pourquoi le syndicat est en perte de vitesse ? C'est aussi parce qu'ils se sont opposés au fordisme. Et Ford, son idée, c'est quand même des employés bien payés pour qu'ils puissent acheter les voitures produites.
Et son idée, c'est d'indexer les salaires sur les gains de productivité, ce qu'il a vraiment fait, sauf vers 31-32, pendant la crise. Du coup, on a une main-d'œuvre qui change un peu de mentalité. Elle est moins soucieuse de dignité et de liberté que de bien-être matériel. Donc, il y a d'autres syndicats qui fusionnent, qui créent un nouveau grand syndicat unitaire. Alors, pour le coup, sans aucune dimension révolutionnaire, et puis qui sera complètement corrompu. Donc, la répression ne cesse jamais. Et alors après, à la fin des fins, c'est vraiment la Deuxième Guerre mondiale. C'est la seconde vague de peur des Rouges. Donc, en 1946, le syndicat avait pris soin de déclarer s'opposer au communisme et au pouvoir soviétique. Mais en 1947, il refuse, malgré tout, de signer une déclaration sous serment déclarant qu'il n'était pas communiste. C'est pour le principe. Et donc, il se retrouve à partir de la 13 interdit, marginalisé. Et en plus, il y a une deuxième scission. Donc, aujourd'hui, ils sont plus que 5000, peut-être, dans le monde. Malgré tout, ce qui compte, c'est l'héritage. Bon, c'est sûr que combattre le capitalisme au pays où il est déifié, c'était pas gagné d'avance. Mais ils ont beaucoup marqué les esprits, à stimuler l'esprit critique des travailleurs, leur imagination, et puis leur méthode, leur combat ont carrément marqué la lutte et pour les droits civiques, et pour la liberté de parole, et pour l'intégration des travailleurs noirs, des immigrés et des femmes. Et ils ont marqué, d'une façon donc plus générale, l'imaginaire et la culture américaine, même la plus commerciale, par leur passion pour la liberté, l'émancipation, l'esprit critique, le combat et le voyage. Donc maintenant, on va revenir à la répression en France, parce que ce serait un peu idiot de parler que de ce qui s'est passé aux États-Unis. La chanson que je vais vous passer, c'est du Aristide Bruant, par Marc Augeret. C'est la chanson Biribi. C'est la chanson Biribi, c'est le nom en argot des bataillons d'Afrique, c'est-à-dire des régiments, des bataillons disciplinaires. Donc je vous passe ça tout de suite.
Inutilement, quand ils veulent plus faire l'exercice et tout le fourbi, on les envoie faire leur service à Biribi, à Biribi. À Biribi, c'est en Afrique où que le plus fort est obligé de poser sa chic et de faire le mort, ou quel plus malin désespère de faire chibi, car on peut jamais se faire la paire à Biribi, à Biribi. À Biribi, c'est là qu'on marche, faut pas flancher, quand le chaouche crie en avant-marche, il faut marcher. Et quand on veut faire des épates, c'est peau de zébi, on vous fout les fers aux quatre pattes, à Biribi, à Biribi. À Biribi, c'est là qu'on crève de soif et de faim, c'est là qu'il faut marner sans trêve jusqu'à la fin. Le soir on pense à la famille sous le gourbi, on pleure encore quand on roupille à Biribi, à Biribi. À Biribi, c'est là qu'on râle, on râle en rute, la nuit on entend hurler le mal qu'aurait pas cru qu'un jour il serait forcé de connaître Mamselle Bibi, car tôt ou tard il faut en être à Biribi, à Biribi. On est sauvage, lâche et féroce. Quand on en revient, si par hasard on fait un gosse, on se souvient. On aimerait mieux quand on se rappelle ce qu'on a subi. Voir son enfant à la nouvelle Kabiribi, Kabiribi.
Voilà, donc les bataillons d'Afrique, donc bataillons disciplinaires. Pourquoi j'en parle au niveau de la répression? C'est parce que on envoyait systématiquement dans ces bataillons disciplinaires tous les conscrits qui avaient un casier judiciaire, c'est-à-dire tous ceux qui avaient été attrapés sur une manif ou sur une grève. Donc, bataillons d'Afrique, beaucoup de mauvais traitements, c'est un euphémisme, hein, ça allait jusqu'à la torture, le viol, la mort, enfin, c'était sordide. Les gars qui en revenaient, s'ils n'étaient pas complètement fous ou brisés, ils avaient quand même, ils étaient particulièrement endurcis. Alors, ce point sur les répressions antisyndicales, donc je rappelle, je me base sur le livre de Anne Steiner, Le goût de l'émeute, aux excellentes éditions en l'échappée. Et Anne Steiner utilise au moins une fois le mot hobo dans son livre pour un terrassier. J'aime bien parce que ça fait le lien un peu avec les luttes aux États-Unis. Il faut rappeler un petit peu ce qu'étaient les syndicats à l'époque. À l'époque, la CGT était un syndicalisme pour un syndicalisme révolutionnaire. Au 9e congrès en 1906, il s'était prononcé pour la grève générale. Donc on est dans le prolongement de l'action directe. L'histoire, c'est que ça a changé suite à une grève à Draveil et Villeneuve-Saint-Georges. Bon, il y a pas mal de grévistes qui sont tués. Et en 1908, Clémenceau fait arrêter 31 dirigeants de la CGT. Ça décapite la CGT et c'est les réformistes qui prennent le dessus après. Donc c'est cette grève qui marque le tournant dans l'histoire de la CGT qui abandonne petit à petit ou tout de suite donc l'orientation d'un syndicalisme révolutionnaire. Moi, ce qui m'a marqué dans ce bouquin de Steiner, c'est la mobilisation des travailleurs à l'époque, qu'ils soient syndiqués ou pas, et vraiment leur engagement physique. Parce qu'une manif, ça se réglait avec une charge de cavalerie, donc ça pouvait piquer un petit peu. Donc je fais un petit résumé rapide de l'époque de Clémenceau. Clémenceau, c'est le monsieur qu'on nous présente comme un grand homme d'État, progressiste, parce que anticlérical, anticolonialiste, Dreyfusard, etc. Mais ça, c'était avant qu'il devienne, en mars 1906, ministre de l'Intérieur. Donc côté répression, ça commence très fort le 10 mars avec la catastrophe de Courrières en 1906. Il y a 1099 mineurs tués. On arrive rapidement à 60 000 mineurs en grève. Et Clémenceau, il décide que force doit revenir à la loi et il mobilise 30 000 gendarmes et soldats et envoie 13 trains de renforts militaires. Donc là, on est encore plus fort que les Américains. Ça continue la même année pour la fête du 1er mai. Là, les salariés se battent pour la journée de 8 heures. Là, c'est 45 000 policiers et soldats qui sont mobilisés. À nouveau, on arrête plein de gens. Et notamment à l'époque, en 1906, on arrête des responsables syndicaux à titre préventif. Ça nous rappelle quelque chose. Pour décrire l'ambiance à l'époque, à l'approche du 1er mai, il y a pas mal de familles qui quittent Paris et d'autres qui préfèrent se constituer des réserves de nourriture et qui se sont barricadées chez elles. En fait, de barricades, il y en a eu effectivement dressées à l'époque. Donc ça se passe pas très bien. Le 13 mai, on a encore 200 000 grévistes. Il faudrait parler de la répression des vignerons en 1907, donc toujours sous Clémenceau. Au départ, les vignerons se mobilisent, mais c'est dans le calme et ça se voulait pacifique. Et après, c'est Clémenceau qui pour rétablir l'ordre, fait appel à l'armée. Et à partir de mi-juin, c'est 22 régiments d'infanterie et 12 régiments de cavalerie qui occupent tout le Midi. Ça fait 25 000 fantassins, 8 000 cavaliers. Donc il y a des morts, c'est pas mal. À Narbonne, à un moment, on ordonne à la troupe de tirer sur les manifestants. Donc il y a 5 morts et 33 blessés. C'est l'épisode des fameux mutins du 17e. J'ai pas la chanson, donc je vous la passerai pas. Voilà. Il y a un petit épisode en 1908 que j'aime bien. Donc en fait, c'est des gendarmes qui reconnaissent un ouvrier gréviste. Ils veulent l'arrêter dans un resto, mais ils se font refouler par les gars qui sont là. Pas grave. Ils vont se mettre autour du restaurant et ils vont tirer à travers les fenêtres du resto pendant 10 minutes. Donc total, une dizaine de blessés et 2 morts. Moi, ça me rappelle l'épisode du cargo sur lequel tirent des adjoints shérifs. Donc, ça m'amuse. Alors après, un petit exemple qui m'intéresse aussi au niveau des moyens mobilisés. C'est en 1909, il y a une guerre des boutonniers, des fabricants de boutons, à Méru. Sauf que ce qu'on va faire en France, c'est qu'en 1914, on va envoyer systématiquement en première ligne les mobilisés des villages de Méru et autour. C'est pas mal, ça, même les Américains l'ont pas fait. Moi, ce qui m'a marqué en préparant cette émission, c'est la différence de vocabulaire utilisée par les Américains par rapport aux Français. Donc, nous, on parle de guerre de sécession quand les Américains parlent de guerre civile. Et pour le reste, ils ont parlé, pour les conflits syndicaux, de war, de battle, de massacre, de soulèvement populaire. Tandis que chez nous, on parle juste de grève et de manif. Un vocabulaire beaucoup plus timide. Un vocabulaire de braves et honnêtes gens, je dirais. C'est différent. Alors, maintenant, rapidement, on va passer au roman noir. Très important. Donc roman noir, parce que je rappelle que Livre en lutte, la librairie associative de Vitry-sur-Seine est à l'origine de la création du festival du roman noir et social de Vitry-sur-Seine chaque premier week-end du mois de décembre. Et là c'est pas mal parce que je vais pouvoir introduire une notion qui n'est pas dans les livres que j'ai cités, c'est l'utilisation de la mafia. Il faut se rappeler que bien souvent, aux États-Unis, on a une petite commune qui vit ou qui s'est construite autour d'une exploitation minière, d'une usine ou d'une scierie, avec donc un patron qui est le big boss du coin, qui fait élire le maire, le shérif, qui détient la presse. Et parfois, ces patrons vont faire appel à la mafia pour reprendre le pouvoir dans leurs usines. Le souci, c'est que les mafieux, après coup, vont faire chanter les patrons et acquérir eux-mêmes pas mal de pouvoir et de passe-droits. Il n'y aura plus qu'à instaurer la prohibition de 1920 à 1933 pour les enrichir et pour leur donner l'occasion, encore une fois, de corrompre systématiquement toutes les autorités policières et judiciaires et les élus. Ça, c'est pas une légende, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, moi, je pars du bouquin d'Achiel Hamet, donc d'Achiel Hamet, ex-hobo, comme d'autres auteurs comme Jim Thompson ou James Cain, auteurs de romans noirs. Hobo qui ont créé le style hardboil, hein, avec Jim Tully par exemple, et donc on retrouve avec ces auteurs de romans noirs, Dashiell Hammett, c'est un petit peu un des papes du hardboil. Et donc Moisson Rouge, c'est le premier roman qu'il écrit. Donc il faut rappeler que Dashiell Hammett avait été embauché par la Pinkerton pendant 6 ans. On lui avait proposé d'assassiner Frank Little, il a refusé, je crois qu'on lui avait proposé 5 000 $, je crois. Donc là, il quitte les Pinkerton, il se met à écrire des nouvelles, je crois que c'est vers 24. Et en 29, c'est son premier roman, et je vais vous en lire un passage, parce qu'il nous dit tout. Hein. Encore une fois, il avait été embauché par les Pinkerton dans la ville de Butte, là où était où il y a eu cet assassinat. Et donc, il reprend cette histoire pour en faire un roman noir. Joli. La grève avait duré 8 mois. Le sang avait coulé abondamment des deux côtés. Les Woblies n'avaient pu compter que sur eux-mêmes. Le vieux patron, lui, avait engagé des mercenaires, des briseurs de grève, des membres de la garde nationale et même des soldats de l'armée régulière pour s'en charger à sa place. Quand le dernier crâne avait été fendu, la dernière côte brisée, la section syndicale de Personville n'était plus qu'un pétard sans poudre. Le problème était que le vieux patron n'avait pas étudié l'histoire de l'Italie. Il avait écrasé la grève, mais perdu sa mainmise sur la ville et l'État. Pour vaincre les mineurs, il avait dû lâcher la bride au gros bras qu'il avait engagé. Le calme revenu, il lui avait été impossible de s'en débarrasser. Il leur avait livré sa ville et n'était pas assez fort pour la reprendre. Personneville leur avait plu et ils en avaient pris le contrôle. Il lui avait permis de gagner le conflit et garder la ville pour butin. Le vieux patron ne pouvait rompre ouvertement avec eux, il le tenait. Lui seul portait la responsabilité de toutes les exactions commises pendant la grève. Voilà, donc là, on est d'accord, hein, en termes de roman policier, c'est pas un roman énigme qu'aurait écrit une vieille dame anglaise en buvant du thé. Ça sent le réel, ça sent le vécu, c'est bien un roman noir, c'est-à-dire que c'est bien un polar situé dans un contexte historique, humain, social et politique précis. Et toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé est totalement voulue. Ce bouquin, donc là, moi c'est la version, la nouvelle version complète et retraduite de 2009, c'est le folio 631, donc il vaut mieux éviter de le rechercher dans des versions d'occasion plus anciennes. Voilà. J'ai fini cette présentation sur les Wobblies et les violences antisyndicales. Donc, vous êtes bien sur Radio Libertaire. Merci encore à Radio Libertaire d'avoir accueilli cette émission. Qui vous est proposée par Livre en Lutte, la librairie associative. Donc, à Vitry-sur-Seine, 62 avenue Guy Môquet, du mardi au vendredi de 9h à 13h et 10h et 13h 18h. 15h 18h. À Champigny, 8 rue du Marché, donc les mercredis de 10h à 12h30 et les samedis de 10h à 13h30. Alors, à Montreuil, on essaie de relancer une librairie Livre en Lutte, 2 rue Galilée. Mardi, jeudi, samedi de 15h à 18h. Bah, j'y suis moi-même aujourd'hui, 3 février. Et le samedi de 10h à 13h. Si vous passez par le Jura, n'oubliez pas Lons-le-Le Saunier. Là, c'est une librairie Livre en Lutte au 35 avenue Jean Moulin. J'en profite pour donner l'adresse. J'ai créé une petite adresse pour cette émission. C'est Radio Lib Livre en Lutte, au pluriel. Donc, gpl@gmail.com. radiolibliveresenlutes@gmail.com. Livre en Lutte, c'est aussi une boutique sur Rakuten. Il faut passer par un moteur de recherche pour pouvoir la trouver et taper LENL 1109. On a quand même plus de 5000 bouquins. Il y en a 4300 qui sont au prix les plus bas d'Internet, donc il faut en profiter. Et ben, je vais vous passer maintenant une petite chanson pour terminer encore encore du Aristide Bruand, cette fois-ci par Chapeau, pas par Marc Augeret. Donc je vous demande une petite seconde. Ouais, c'est ça. Donc c'est parti, le grand métingue du métropolitain, c'est parti.
J'avais bien bu de 5 à 6 bouteilles, si bien que je m'étais jamais trouvé si rond. V'là la bourgeoise qui se rapplique sur le zinc, fagnant qu'elle me dit, t'as lâché ton turbin. Vite je réponds, car je vais au métingue, au grand métingue du métropolitain. Les citoyens, dans un élan sublime, étaient venus, guidés par la raison. À la porte, on donnait 25 centimes pour soutenir les grévistes de Vierzon. Bref, à part 4 municipaux qui schlinguent et 3 sergots déguisés en Pékin, j'ai jamais vu un si tant chouette métingue que le grand métingue du métropolitain. J'ai jamais vu un si tant chouette métingue que le grand métingue du métropolitain. Il y avait Bali, le mineur indomptable, Camélina, l'orgueil du pays. Ils sont grimpés tous deux sur une table pour mettre la question sur le tapis. Mais tout à coup, on entend du bastringue. C'est un mouchard qui veut faire le malin. Il est venu pour troubler le métingue, le grand métingue du métropolitain. Il est venu pour troubler le métingue, le grand métingue du métropolitain. Moi, je tombe dessus et pendant qu'il proteste, d'un grand coup de poing, j'y renfonce son chapeau. Il déguerpit sans demander son reste, en faisant signe aux 4 municipaux. À la faveur de ce qu'avait du bastringue, on m'a conduit jusqu'au poste voisin. Et c'est comme ça qu'a fini le métingue, le grand métingue du métropolitain. Et c'est comme ça qu'a fini le métingue, le grand métingue du métropolitain.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre au signal et merle moka seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moka. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la forme en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises. Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. Le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les belles. Oui, faites-nous des chansons, nous les fredonnerons. Oui, faites-nous des chansons pour nous donner des ailes. Oui, faites-nous des chansons, nous nous envolerons. Si vous envolez, braves gens, aurez bien de la chance. Vous en aurez pas pour votre argent, pas pour votre espérance. Arrive que le chansonneur ait plus rien dans les poches, plus une miette de bonheur, plus une simple croche. Arrive que le rimailleur, là de se faire entendre ailleurs, reste dedans sa chambre, le cœur en plein décembre, et que le musicaillon bouffe le bois de ses crayons, déserté par les notes, les yeux remplis de flotte. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troula l'air. C'est pas moi qui vous vendrai du vent. C'est ça qu'il vous fallait, du troula troula l'air. Si c'est ça, fallait le dire avant. Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les tendres. Oui, faites-nous des chansons et nous les aimerons. Oui, faites-nous des chansons qui soient douces à entendre. Oui, faites-nous des chansons et nous les rêverons. Si vous voulez rêver, braves gens, ça sera pas facile. Le rêve a pris la clé des champs, il a quitté la ville. Arrive que le chansonneur aimerait bien se taire et planquer son petit malheur sous deux poignées de terre. Arrive que le scribouilleux puisse rien écrire de mieux, que sa chandelle soit morte, frappez pas à sa porte. Arrive arrive que le musicard ait quelques bateaux de retard, que ses soupirs débordent, qu'il ait cassé ses cordes. C'est pas moi qui vous vendrai du troula, troula l'air. C'est pas moi qui vous vendrai du vent. Si c'est ça qu'il vous fallait, du troula, troula l'air. Si c'est ça, fallait le dire avant. Faites-nous des chansons et faites-nous les drôles. Oui, faites-nous des chansons, nous nous épanouirons. Oui, faites-nous des chansons que le rire nous frôle. Oui, faites-nous des chansons, nous les achèterons. Bien si vous rigolez, braves gens, ça sera la surprise. Faudrait pas tricoter longtemps votre matière grise. Arrive que le chansonneur est pour vous trop d'estime, pour viser plus bas que le cœur, en dessous de la rime. Arrive que le paroleux, plutôt que de se vendre au mieux, préfère encore se taire, le cul posé par terre. Et que le pauvre écosse note, plutôt que de baisser culotte, reste dans sa cuisine à gratter en sourdine. C'est pas moi qui vous vendrai du troula, troula l'air. C'est pas moi qui vous vendrai du vent. Si c'est ça qu'il vous fallait, du troula.